L'invité du 7-9 avec Épatant, le magazine qui nous bouge.
650 000 Français souffrent d'épilepsie. La moitié des crises touchent des mineurs. L'épilepsie, parlons-en, c'est le mot d'ordre de la prochaine journée internationale de l'épilepsie, lundi 14 février. Et l'association Épilepsie France dénonce le silence qui entoure l'épilepsie. Elle organise des actions pour combattre la méconnaissance autour de cette maladie et faciliter la vie des personnes qui en souffrent. Christophe Lucas, président d'Épilepsie France, bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Alors on va parler épilepsie et puis de cette journée de lundi. C'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi la journée internationale de l'épilepsie.
Oui, effectivement, la journée internationale, c'est le deuxième lundi de chaque mois de février, tous les ans. Et là, exceptionnellement, ça tombe le 14 février. Et le hasard vaut bien les choses, puisque la Saint-Valentin, c'est le père de tous les patients épileptiques.
C'est le hasard, en fait.
C'est le hasard,
c'est le
année.
Hasard. C'est,
ça tombe le 14 février. L'année dernière, c'était le 8. L'année prochaine, je crois que ce sera le 12 ou le 13.
Oui.
Voilà.
Voilà. Et alors, l'épilepsie, on va en parler. C'est encore méconnu. C'est pour ça que vous faites cette journée. Vous pensez que les Français commencent encore trop mal et que ça pose problème?
Alors, ça fait des années qu'elle existe, cette journée. Et la problématique que l'on a avec l'épilepsie, elle est très, très mal connue. On y travaille au niveau de l'association et d'autres associations. On y travaille pour qu'elle soit mieux reconnue et que tous les tabous soient levés autour de l'épilepsie. Donc, on profite de ce moment-là, de cette journée-là, qui a été décidée par l'OMS il y a très longtemps, pour justement dédiaboliser tout ce qui entoure l'épilepsie et permettre aussi à des médias comme vous de nous accueillir et parler, de faire un petit focus un petit peu pendant quelques jours ou quelques heures sur la maladie, sur le quotidien des patients. Et voilà.
Alors vous parlez de dédiaboliser, c'est vrai que dans le temps on pouvait trouver ça étrange, peut-être y associer un petit peu le diable, mais c'est bien fini ça quand même.
Alors non, il y a un récent sondage qui dit qu'il y a encore 5% de la population qui pense que les personnes épileptiques sont possédées atteintes par le diable.
Oui, oui. En France?
Ah oui, bien sûr, en France, oui. On a aussi des statistiques, enfin des gens qui disent que c'est contagieux. Enfin, on a tout un tas de méconnaissances autour de la maladie qu'il faut que l'on arrive à faire tomber et qui sont en fait des éléments qui impactent les patients au quotidien par rapport au regard des autres, puisque en fait c'est très compliqué de s'imaginer tout ce qu'on peut, toutes les absurdités qu'on peut entendre.
Oui, on va en parler justement au cours de cette émission, on va essayer de rectifier certaines croyances absurdes. C'est l'épilepsie exactement, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie chronique? C'est quelque chose qui se soigne? Est-ce qu'il y a différentes maladies épileptiques?
Alors, c'est une maladie chronique déjà. À la base, elle est cataloguée de cette manière-là. Le professeur Bartholomé de Marseille a l'habitude de dire que c'est une anomalie du rythme cérébral. C'est-à-dire qu'on parle souvent du rythme cardiaque, des problèmes de cœur, etc. Et on commence à avoir une réflexion un petit peu plus pointue au niveau de l'épilepsie et parler d'une rythmie neurologique et avec un emballement qui peut générer des crises d'épilepsie ou des accidents électriques qui vont générer des crises. Donc les crises, elles se présentent de plusieurs manières. Vous avez la plus connue, on va dire, et qui n'est pas la plus répandue, qui est la crise tonico-clonique, c'est-à-dire la personne va convulser, elle va chuter, faire des convulsions, c'est, on va dire, à peu près 20% de la population, épileptique, bien évidemment. Après, vous avez les crises la plus commune, ce sont les absences, c'est-à-dire que la personne va avoir une rupture de contact neurologique pendant quelques secondes, voire quelques minutes, mais c'est rare au-delà. Et après, vous avez tous les autres types de stigmates épileptiques qui vont être, on va dire, les myoclonies, donc les tremblements, et puis les auras ou des choses comme ça.
Oui.
Ouais. Voilà. Donc, et alors, vous avez posé dans votre question, vous avez demandé si ça se soignait. Je dirais que globalement, on ne va pas dire qu'on va soigner une épilepsie, on va essayer de diminuer l'impact des crises sur le quotidien d'un patient. Alors, il y a certaines épilepsies qui vont pouvoir être soignées par de la chirurgie, mais là, c'est des épilepsies, on va dire, précises, sur lesquelles on va pouvoir isoler le foyer au niveau cérébral de problématiques et de genèse de la crise d'épilepsie. Donc là, il y aura une opération, c'est entre 1 et 2% des cas. Donc c'est très très rare et ça demande un processus bien plus long. Après vous avez toute une partie qui va être le traitement en médicaments. On a aujourd'hui à peu près 25 molécules qui existent et dont l'objectif n'est pas de soigner l'épilepsie mais de réduire le volume de crise. Et à savoir qu'aujourd'hui, sur la population statistique, c'est 70% des patients qui répondent favorablement au traitement. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une stabilisation par la chimie ou par la mécanique, puisqu'il y a aussi d'autres systèmes qui existent, comme la stimulation du nerf vague. Mais 30% de la population épileptique ne sera pas stabilisée, ou on n'aura pas trouvé de molécules ou d'adéquation de molécules pour permettre de limiter l'impact de l'épilepsie au quotidien.
Oui, oui. C'est une maladie qui peut se déclencher, qui va se déclencher dès l'enfance, ou alors qui peut intervenir beaucoup plus tard.
Alors, ça intervient à tous les âges. Alors, vous avez une grosse partie de la population qui est épileptique aujourd'hui, qui est mineure, puisque c'est dans les... Malheureusement, ça, c'est souvent le cas. C'est pratiquement la moitié des patients épileptiques sont des enfants. Après, on a un peu moins d'adultes sur la proportion de la population épileptique. Et ensuite, on a une résurgence, une augmentation des patients épileptiques dans l'âge senior, qui sont liés souvent à d'autres problématiques liées aux AVC ou à des tumeurs au cerveau, des choses comme ça, où il y a des impacts différents qui viennent réveiller une épilepsie.
Est-ce qu'on peut faire une crise un jour dans sa vie et ne plus jamais en faire? C'est possible?
Alors, les statistiques, je vais vous donner une tranche un peu large, mais les statistiques indiquent qu'entre 5 et 10% de la population feront au moins une crise dans leur vie.
Et aujourd'hui,
oui,
on estime.
Bah oui, c'est beaucoup, oui. Et on estime que 1% de la population est touchée par l'épilepsie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dernier chiffre, on est 67 millions, je crois, d'habitants en France. Donc, ça veut dire qu'on est entre 650 000 et 700 000 patients en France qui sont touchés. Donc, ça veut dire que. Au niveau vie, au quotidien, on estime que 5 millions de personnes aujourd'hui vivent autour de l'épilepsie, soit avec un proche, un frère, une sœur, un parent ou un grand-parent ou un enfant avec une épilepsie. Donc ça fait quand même une grosse proportion de la population qui sait de quoi on parle en fait.
Oui, alors vous dites 5% de la population va faire dans sa vie une crise. Peut-être que j'en ai déjà fait une. Ça serait manifesté de quelle manière?
Ça pourrait être une absence. Ça pourrait être une absence. Souvent on se dit tiens, j'ai eu un flash. Ceci dit, on va considérer que la personne est épileptique quand elle va faire plusieurs crises d'épilepsie. Oui. Si vous faites une seule crise dans votre vie, on ne va pas vous dire que vous êtes épileptique.
Oui.
En fait, c'est une recrudescence de crises qui vont permettre de l'analyser avec un EEG et de préciser que vous êtes bien épileptique. Donc c'est simplement se dire qu'une fois dans votre vie, c'est possible de le faire ou d'être touché directement.
Alors, ce n'est pas forcément des convulsions, ça peut être une absence, comme vous venez de le dire.
Tout à fait. Vous avez les absences, les myoclonies. Ça, c'est les trois points les plus courants. La crise tonico-clonique, c'est vraiment celle qui est la plus choquante, on va dire, entre guillemets, mais la plus visible, avec des convulsions assez fortes, et puis qui peuvent aller dans certaines crises qui sont très violentes, jusqu'à une perte d'urine ou des selles. Même si c'est très très rare, mais les convulsions, c'est la plus connue. Les myoclonies sont un peu moins connues, mais elles sont fréquentes aussi dans certains syndromes épileptiques.
Très bien, Christophe Lucas, vous restez avec nous, président oui. d'Épilepsie France. Vous préparez la journée de l'épilepsie, la journée internationale de ce lundi, ce sera le 14 février, la Saint-Valentin, mais également cette journée internationale. On parle de cette maladie qui est encore taboue, on essaie de déconstruire des clichés et de voir ce que vous proposez, vous, à Épilepsie France. Alors nous avons en ligne Charlotte, bonjour Charlotte.
Bonjour.
Charlotte.
Qui est dans le Cher, hein, c'est ça?
Exactement, oui.
Voilà. Charlotte, vous faites partie de l'association Épilepsie France et vous êtes également concernée par la maladie puisque vous êtes épileptique.
C'est ça, oui, épileptique depuis 4 ans.
Voilà, donc c'est arrivé alors que vous étiez adulte déjà.
Oui.
Suite à un accident.
Oui, c'est ça.
Voilà. Comment ça altère votre vie? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui que vous pouviez faire auparavant?
Eh bien, faire et pas faire, par exemple, la plongée, c'est quelque chose que je ne peux plus pratiquer.
C'est trop dangereux,
faire.
Oui.
Oui, voilà, des choses, il y en a plein. Je ne vais plus, même si ce n'est pas quelque chose que je faisais souvent, mais dans les lieux où il y a beaucoup de bruit, les concerts, je n'y vais plus, par exemple, pour la lumière.
Oui.
Voilà. Et puis, des choses, il y en a tellement qu'on y prend. Enfin, j'en aurais beaucoup à dire.
Oui. Et ça a impacté votre vie professionnelle?
Oui, exactement. Oui. Aujourd'hui, je n'ai plus l'accès à l'emploi. avec mon employeur.
Mais parce que vous pourriez encore travailler dans un bureau, c'est encore possible ?
Oui, bien sûr. C'est aujourd'hui, je suis bénévole, justement, à un rythme beaucoup moins important qu'avant, c'est sûr. J'ai des difficultés. La maladie fait que c'est pas toujours simple. Mais avec du télétravail, ça reste possible. Et puis, dans un bureau où il n'y a pas de bruit et ça reste calme, j'ai pas la même réactivité que tout le monde, mais je peux travailler.
Oui, oui, oui. Et donc, vous étiez en poste, vous avez eu un accident, vous êtes devenu épileptique et vous n'avez pas pu, enfin, vous avez essayé de reprendre cette activité professionnelle au même endroit et ça s'est mal passé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, ben, j'ai eu donc le droit à une reconnaissance de travailleur handicapé. À la suite de ça, j'ai pu avoir un poste aménagé.
Mais ça, là où vous étiez précédemment, donc, dans la même entreprise ?
Tout à fait. Et ce poste aménagé était face au public, enfin en tout cas en lien avec le public. Et malheureusement, eh bien j'ai fait des crises. J'ai eu des crises au travail, malgré des horaires aménagés et tout ce qui a été fait autour.
Oui.
Des difficultés, une fatigabilité. Et mon employeur a eu du mal à ce sujet et ça a été très compliqué. Il m'a demandé de m'a mis un petit peu à l'écart.
Oui, c'est-à-dire qu'il vous a changé de poste, il ne vous donnait plus de travail, c'est un peu ça ?
Oui, c'est ça, voilà. Il m'a demandé de rester chez moi, et de revenir quand je serai soignée. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne suis plus en activité.
Oui, oui. Mais vous êtes toujours employée par cette entreprise, par cet employeur ?
C'est ça. Oui, tout à fait.
Oui. Mais on pourrait vous trouver un poste de bureau, un poste aménagé, ce serait possible ça, non ?
Bah oui, écoutez, aujourd'hui avec le bénévolat, c'est ce que j'essaie de faire, hein, de voir effectivement ce que je suis capable de faire, parce que on perd confiance en soi quand on voit des choses, quand on est face à cette situation. Aujourd'hui avec le bénévolat que je fais depuis un an, les personnes qui travaillent avec moi n'ont pas à se plaindre. En tout cas, c'est ce que j'entends des bons retours.
Oui. Vous connaissez Christophe Lucas, le président d'Épilepsie France ?
Oui, on se connaît très bien avec Charlotte.
Voilà. Donc vous confirmez, même avec son...
Ce que dit Charlotte, c'est typique en fait de ce que les patients adultes ont au quotidien, c'est-à-dire que la maladie va impacter leur quotidien en ralentissant peut-être en ayant une fatigabilité importante. Sauf que le milieu du travail ne s'adapte pas en fait aux patients qui ont une maladie chronique et encore plus avec un handicap invisible comme l'épilepsie. Et ça, c'est l'un des points sur lesquels on essaie de se bagarrer avec l'association en aidant les familles, mais aussi en essayant de sensibiliser et d'informer les entreprises. C'est-à-dire que ce que disait Charlotte il y a deux minutes, que je connais très bien parce qu'on travaille ensemble sur plusieurs groupes de thématiques, c'est vraiment ce qu'on entend au quotidien dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on a des employeurs qui disent « Bon, écoutez, quand vous serez soigné, vous revenez, on vous garde votre poste si vous voulez, mais quand vous serez soigné, vous revenez. » Ou alors « Écoutez, moi, j'ai pas de solution, démissionnez ou partez, mais je peux pas faire avec vous. » Et toute cette position-là, il n'y a pas de réadaptation ou de réflexion par rapport au milieu du travail. On a vu qu'on a une réactivité du milieu professionnel avec le télétravail suite à la situation sanitaire il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, on a des évolutions qui ont été mises en place. Mais sur les handicaps invisibles, on est à milieu de ça, alors que c'est aussi simple que ça, de pouvoir réadapter l'emploi de certaines personnes. Et on oublie souvent dans le handicap invisible, et même dans le handicap en général, c'est que le besoin des patients, c'est d'exister au travers de la société et d'avoir une existence. Et l'existence, c'est pas seulement, pour certains, d'avoir une allocation adulte handicapée ou d'avoir des indemnités de la sécurité sociale. Puisqu'on a eu des réflexions qui ont été dites comme ça à des patients en disant attendez, qu'est-ce que vous voulez venir chercher un travail puisqu'on vous donne de l'argent tous les jours pour rester chez vous ? Et ce qu'on oublie dans cette situation-là, c'est que c'est des gens qui ont besoin d'exister dans la société.
Bien sûr.
Et le travail.
Et qui peuvent apporter quelque chose.
Voilà.
En plus.
Et le travail fait partie d'une personne, c'est-à-dire d'avoir l'envie d'exister dans la société. Et donc, ce qu'explique Charlotte de son investissement au quotidien en bénévole au niveau de l'association, au niveau local dans le Cher, c'est exactement ça qu'on retrouve aujourd'hui, c'est beaucoup de patients adultes, c'est-à-dire que le besoin d'exister au travers de la société. Alors, je ne veux pas dire que nous, on leur permet d'exister, on leur ouvre la porte et de travailler avec nous, on travaille ensemble pour la même raison, on a des parents et on a des patients, c'est l'élément typique de l'association, nous sommes une association de patients, et des dents. Et l'un des points que je ne vous ai pas spécifié tout à l'heure au niveau du conseil d'administration de l'association, elle est répartie en trois parties. C'est un tiers de professionnels, un tiers de patients et un tiers de proches. C'est toujours l'idée d'être au contact de la situation des uns et des autres. Et ce que dit Charlotte est vraiment typique des salariés aujourd'hui qui souffrent d'épilepsie.
Oui, oui. Charlotte, vous connaissez d'autres personnes justement dans votre activité de bénévole de l'association Épilepsie France qui sont dans la même situation que vous, qui pourraient travailler mais qui n'ont plus de poste et qui n'ont guère d'espoir d'en retrouver un.
Oui, bien sûr, oui. Il y en a énormément. C'est la majeure partie de gens que je peux connaître autour de moi qui sont épileptiques et qui ont la même difficulté ou oui. qui ont été mis à l'écart de la même façon que moi ou qui ont essayé de travailler mais qui n'ont jamais eu l'ouverture à l'emploi.
Oui, oui. Vous cherchez un nouveau travail, Charlotte, vous faites des démarches de candidature?
Alors, chercher un nouveau travail, non, puisque je reste malgré tout, mon employeur n'a pas licencié, je reste toujours salariée de leur côté, salariés mais mis à l'écart avec une prévoyance. Ça fait un an que ça dure, il faut encaisser et c'est pour ça que je me suis mis dans le bénévolat sur différentes associations pour reprendre confiance en moi et me dire qu'est-ce que j'ai une maladie, ça ne colle pas avec le monde du travail. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Donc c'est le bénévolat, je le fais avec plaisir, mais c'est aussi pour moi me dire qu'est-ce que je suis capable de faire avec cette maladie. Donc aujourd'hui, je suis bénévole, je reste bénévole et pour voir quelles sont mes possibilités dans l'emploi.
Christophe.
Oui. Et justement, c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez beaucoup de patients et au niveau de l'association, c'est ce besoin de soutien, de pouvoir, à un moment donné, ils se retrouvent 90% des cas dévalorisés dans leur activité professionnelle ou dans leur emploi. C'est-à-dire que c'est souvent, ils ont été professionnels dans leur métier, et la maladie les a ralentis, et on vient à nouveau les stigmatiser en disant « mais de toute façon, vous êtes capable de rien ». Et ce qui n'est pas vrai, c'est simplement on doit pouvoir réadapter son temps de travail, peut-être en temps partiel ou dans un environnement, comme le disait Charlotte, plus calme, moins bruyant ou mesuré. Sur certains handicaps visibles ou d'autres un peu moins visibles, aujourd'hui, on va faire attention justement à l'environnement de travail de personnes qui ont une RQTH, donc une reconnaissance de travailleur handicapé. Mais sur l'épilepsie, on ne va pas s'imaginer que le patient qui en souffre a besoin d'une réadaptation de son poste de travail. Et ça fait partie aussi de tous nos combats au quotidien.
Oui, oui. Charlotte, quelle a été la réaction de vos collègues devant les crises d'épilepsie? Comment ils prenaient les choses?
Bien, dans la majorité, les collègues, bien, mais malgré que ça leur fasse peur, ils ont une formation auprès de la médecine du travail. Le médecin du travail s'est déplacé pour expliquer comment réagir.
Oui.
Dans l'ensemble, en majorité, ils ont tous bien réagi. Mis à part peut-être une personne qui, lui, n'a pas su faire preuve, a eu peur et n'a pas su faire le nécessaire. Voilà, et c'est le public qui est venu à mon aide.
D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations-là? Parce que, personnellement, je ne sais pas.
Christophe aussi peut informer, mais face à une crise tonico-clonique, donc c'est une crise généralisée, c'est-à-dire que nous perdons un épileptique perd connaissance et il y a des tremblements des membres du corps. Donc à ce moment-là, si on est debout ou assis, on part, on n'a plus la notion, donc on peut chuter, donc éviter la chute. prendre la personne et l'installer en position PLS et puis ajouter quelque chose en dessous de sa tête, un linge ou tout autre avec du confort pour éviter qu'elle se cogne par terre et puis bien l'observer, vérifier qu'il n'y ait pas... voilà, lui parler pour la rassurer, même si elle n'est pas présente pendant une convulsion, une épilepsie, une crise totale. Nous perdons connaissance, donc on ne va pas forcément répondre, mais on se sent rassuré en tout cas.
Oui.
Pour simplifier, en fait, nous on dit qu'il faut sécuriser l'environnement du patient quand il fait une crise tonico-clonique, c'est-à-dire s'il y a une table, quelque chose, essayer de les écarter. Si la personne a une ceinture qui la serre ou une écharpe, essayer de la desserrer pendant la crise. Une fois que la crise est terminée, on va essayer d'installer la personne en PLS, donc en position latérale de sécurité, et entre-temps essayer de lui mettre un blouson, un linge, ou n'importe quoi, ou un oreiller sous la tête pour éviter qu'elle se blesse. Et attendre que la crise soit terminée. Une fois que parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Surtout ne pas mettre d'objet dans la bouche, puisque la personne, contrairement à la légende urbaine, jamais une personne n'avalera sa langue.
C'est faux ça. On l'entend souvent.
Totalement faux.
Hein, on l'entend.
En fait, la langue est plus grande que en fait la trachée. Et en fait, si
alors
vous venez,
qu'on peut mordre sa langue et
alors mordre sa langue, je veux bien, mais si vous voulez, au pire, elle se blessera, elle saignera un petit peu de la langue. Mais si vous mettez un stylo, vous restez ou un bouchon, vous restez que ça casse dans la bouche et que
c'est
la personne, ça vienne obstruer la trachée. Et là, c'est plus dramatique. Ou si vous mettez votre doigt, ça veut dire que vous avez fait le deuil de votre doigt à vous, parce qu'il y a forte chance que vous n'ayez plus de doigt après, parce que la force de la crise d'épilepsie va faire que le doigt risque d'être sectionné assez fortement. Donc on ne met rien dans la bouche, c'est vraiment le béaba. Si la personne, par contre, elle était en train de manger, on va essayer de l'aider à enlever ce qu'elle a dans la bouche pour justement qu'elle ne s'étouffe pas derrière. Ça peut arriver, mais c'est rare quand même. Mais une fois que la crise est passée, juste attendre que la personne se réveille, essayer de la sécuriser naturellement, en lui disant bon, vous inquiétez pas, ça va aller, on est là, et la rassurer, parce qu'elle a eu un choc temporal, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas dans quel espace-temps elle se trouve, ce qui s'est passé. Si elle est déjà patiente, elle sait qu'elle a fait une crise d'épilepsie, mais elle ne va pas s'imaginer le temps qui s'est écoulé, la notion a été perdue, donc c'est la rassurer, et être vigilant qu'elle ne refasse pas une seconde crise.
Oui.
Donc c'est surtout ça. Et là, si venait dans les minutes à suivre, ou dans le quart d'heure, ou la demi-heure, ou même l'heure à venir, elle revenait une seconde crise, là, il faudrait appeler les secours aussitôt, puisque là, on n'est plus dans le cadre d'une simple crise d'épilepsie, on va dire, pas classique, mais une crise d'épilepsie connue, mais on est en train de rentrer dans un couloir qui est différent, qui est le risque d'être d'état de mal. Et là, la personne, elle ne sort plus de ces crises d'épilepsie qui sont en train de s'enchaîner.
Oui.
Et là, seule une intervention du SAMU ou des pompiers va permettre de redescendre la pression.
Charlotte, est-ce que vous avez eu des réactions très, très, très folles face à votre épilepsie lorsque vous dites « je suis épileptique », des réactions liées à des clichés, à des réactions qu'on ne devrait plus avoir aux yeux en France?
Oh oui, bien sûr. Oui, oui. Quand je dis que je suis épileptique, j'ai, le regard des gens, justement, ça ne se voit pas. Donc oui, les commentaires, j'ai déjà eu des commentaires un peu particuliers, oui.
C'est-à-dire des méchancetés, des trucs très désobligeants?
Oui, 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 de la méchanceté, oui. Pour certains, j'ai déjà eu des paroles assez méchantes, oui, malheureusement.
Mmh. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui en France. Et alors ça, c'est des personnes qui ne sont pas proches de vous, mais je pense que les proches savent, ont compris et vous soutiennent.
Pas forcément. Même des fois, la famille peut avoir du mal à comprendre, malgré qu'on puisse expliquer. Il y en a qui... On est sur du handicap invisible, donc forcément, malgré qu'on puisse expliquer, ou même quand des fois ils ont vu, j'ai des gens proches de mon entourage qui n'arrivent toujours pas à comprendre qu'on est sur une maladie neurologique, par exemple. Pour eux, c'est pas ça.
En fait, pour compléter ce que dit Charlotte, souvent dans les familles ou l'entourage, pas direct, mais souvent loin, un peu plus éloigné, vous avez un regard qui est différent en se disant oh, il le fait exprès, c'est pas possible, il a un médicament, il a un traitement, donc il est où le problème? Avec son médicament, ça doit aller. Et on s'imagine pas qu'en fait, une partie des traitements ne sont pas suffisants ou ne fonctionnent pas. Donc, ou ne calme pas. Enfin, c'est-à-dire que les traitements, comme j'ai dit, quand ça fonctionne, ça va réduire les crises ou le volume des crises, mais ça va. La personne continuera à faire des crises d'épilepsie de toute façon. Et on a souvent des échos comme ça dans les familles où, bah non, mes cousins, mes cousines, ou mes oncles, mes tantes, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils se disent, il le fait exprès, ce n'est pas possible. Ou il a un autre problème neurologique, avec des stigmatisations différentes. Et puis, il y a une partie qui n'est pas souvent révélée au niveau de l'épilepsie, c'est tous les troubles associés. C'est-à-dire qu'on les constate vraiment dans la petite enfance ou dans l'enfance. C'est-à-dire que les patients qui sont touchés ont tous les stigmates d'une maladie neurologique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des ralentissements, de la fatigabilité et de la sensibilité à plein de choses. Donc Charlotte parlait tout à l'heure au bruit et à la lumière, etc. Tous les patients épileptiques ne sont pas photosensibles. Mais une surcharge en fait de fatigabilité, de lumière ou de son vont impacter leur quotidien de toute façon. Et la crise épileptique est quelque chose qui va générer de la fatigue aussi importante. C'est-à-dire que vous faites une crise, bah vous n'allez pas vous en remettre tout de suite. Et même si vous faites une crise d'absence, elle va de toute façon impacter sur votre quotidien. Et ce regard-là, bah, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent, oh, il a pris un médicament, ça va aller. Ou alors, il a fait sa sieste pendant une demi-heure, maintenant, c'est bon, quoi, c'est passé. Et ça, on ne s'imagine pas la conséquence. Ça fait partie aussi de notre travail au quotidien, quand on sensibilise, quand on informe en entreprise ou dans les écoles, pour expliquer que c'est pas la crise, c'est pas seulement ce moment-là, c'est tout ce qui est derrière la crise. Et c'est un peu ce qu'essaie d'expliquer Charlotte, c'est-à-dire que dans l'emploi, on ne peut pas avoir un emploi... C'est difficile pour beaucoup d'avoir un emploi tel qu'il était avant. On doit pouvoir réadapter son poste de travail.
Oui, Charlotte, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ?
Bien, écoutez, j'espère trouver de la stabilité d'une part dans la maladie et puis l'ouverture d'esprit face au travail, retrouver l'emploi avec l'employeur ou d'une autre manière.
Oui, ouais.
J'espère.
On vous souhaite une excellente journée, Charlotte. Merci d'être intervenue sur notre antenne et d'avoir témoigné.
Eh bien, merci à vous. Très belle journée.
Merci, Charlotte. Bonne journée à vous. Alors, on disait hors antenne qu'il y a beaucoup de gens qui ont des croyances, mais folles. Par exemple, l'épilepsie, ce serait contagieux.
Oui, alors ça... On l'a encore, je vous parlais des sensibilisations, ça fait un peu partie du travail de l'association. On fait des sensibilisations en milieu scolaire ou en milieu professionnel. Et on a encore des gens qui nous disent, en milieu scolaire, ça nous est arrivé, des parents qui disent « Non mais attendez, moi je ne veux pas que ma fille ou mon fils soit avec tel enfant qui est épileptique parce que j'ai trop peur qu'il attrape une épilepsie. »
Mais comment ça s'attrape? Ça ne s'attrape pas?
Ben non, ça ne s'attrape
pas. Ça ne s'est jamais attrapé.
Que je vous dis, donc d'où l'intérêt de sensibiliser et d'informer les gens, les enfants. Les enfants sont hyper réceptifs à tout ce qui est sensibilisation et information. Et je vais même vous dire, en milieu scolaire, quand un enfant fait une crise d'épilepsie, généralement, les autres vont pas... il ne va pas y avoir de moquerie ou des choses comme ça. C'est plutôt de s'inquiéter de son camarade, surtout dans la petite enfance. Hein. J'espère qu'il ne souffre pas et compagnie, etc. Il y a une attention entre les enfants.
Oui.
La problématique en fait, du regard de l'autre, elle vient avec l'adolescence, souvent. C'est cette période-là. Mais, on va dire... L'inclusion en milieu scolaire des patients, des enfants épileptiques, elle se fait, elle pose problème plutôt avec des enseignants qui ont peur de gérer une crise d'épilepsie dans leur classe, avec le regard des 20 autres élèves, on va dire, schématiquement. Donc on intervient énormément en milieu scolaire, ça permet de dédramatiser pour l'enseignant ce qu'il va vivre, et puis l'aider aussi à réagir de manière normale, on va, pour nous, dans le milieu scolaire, et de dédiaboliser et dédramatiser une situation qui pourrait l'être, et qui ne l'est pas en fait, puisque dans 90% des cas, une fois que l'enfant a fait sa crise, il va somnoler un petit peu, je parle pour les crises tonico-cloniques, et après il va revenir à lui, il aura besoin d'un peu de repos, de temps de récupération, et la vie va continuer de la journée, en fait. Donc ça, c'est cette partie-là qu'on a du mal à faire passer comme message, et on arrive, enfin on est sollicité par des centaines de, enfin pas des centaines de milliers, mais des milliers de familles dans toute la France, et tous nos bénévoles sur le terrain, bah, ils vont dans les écoles, dans les entreprises, pour essayer de dédramatiser toutes ces situations.
Oui, et alors vous lancez un manifeste pour la reconnaissance de l'épilepsie, expliquez-nous.
Alors aujourd'hui, en fait, c'est surtout un appel au. La finalité, c'est un appel à un plan national. Il y a 4-5 ans, on a fait un appel à plan national de l'épilepsie. Il en existe pour plein de maladies. Je rappelle que l'épilepsie, ça représente, c'est la deuxième maladie neurologique. 650 000 à 700 000 patients en France à l'heure actuelle.
Qui est près de la migraine.
Et on a toujours pas de plan national. Et donc, dans toutes les strates de l'État, on n'a pas de prise en compte de la situation d'épilepsie et on n'a pas de modernisation des moyens pour les neurologues. C'était c'était notre objectif au départ. Et puis, on devait faire un nouveau sommet en février, là, ce mois-ci. Sauf qu'on arrivait dans une période d'élection présidentielle, on s'est dit on va travailler autrement. On va essayer de discuter avec tous nos adhérents sur toute la France et quelles sont les thématiques qui posent problème. Et là, on a eu depuis des mois, excusez-moi de l'expression, mais un ras-le-bol total. En disant, pour l'emploi, Charlotte en a parlé tout à l'heure, il y en a assez. Pour le milieu scolaire, il y en a assez. Pour le parcours de soins, il y en a assez. Pour la mobilité, on a plein de problèmes. Donc on a lancé un manifeste des patients en disant, attention, nous, on a une problématique et on a une multitude de situations qui sont impliquées par l'épilepsie et ne sont pas tenues compte suffisamment par le pouvoir public, que ce soit au niveau de l'État ou en région ou dans les communes. Donc on a fait ce manifeste dans un premier temps qui, je le précise, a été rédigé par des patients et des proches, mais principalement par des patients. C'est-à-dire que c'est tous les textes que vous avez dedans, ils ont participé de manière active dedans. Et je parle de participation active puisque c'est le projet sur lequel on travaille depuis avril dernier, c'est-à-dire dont la finalité sera un sommet en novembre 2022, qui sera à Paris, et auquel on remettra un livre blanc sur 6 thématiques qu'on a relevées. Donc comme je disais, la scolarité, le parcours de soins, la mobilité, l'emploi, l'isolement et les activités de loisirs. C'est les 6 thématiques qui sont revenues le plus. Et on a des groupes de travail. Charlotte fait partie de plusieurs de ces groupes. D'ailleurs, on a donc un certain nombre de bénévoles qui réfléchissent à ce qui existe, ce qu'il faudrait modifier. Et nous, l'objectif en novembre, c'est pas de venir avec le poing levé ou une pancarte en disant voilà, il y en a assez, il y en a assez. C'était l'objet du manifeste. Le manifeste, c'était de dire voilà, il y a une problématique. On saisit l'ensemble des politiques et des médias pour leur dire « attention, il y en a assez ». Par contre, on vous annonce que nous, fin 2022, on est au travail pour fin 2022 et on va être source de propositions. Parce que le slogan de l'association, c'est « l'épilepsie France », mais c'est nous, c'est la vie d'abord.
Oui.
Et on est parti sur cette idée-là de dire « eh ben, on va être source de propositions ». On a plusieurs terrains, je ne vais pas vous les dévoiler là, mais on a déjà pas mal de choses sur lesquelles on a des projets d'amélioration du quotidien pour les patients. Donc c'est ce travail-là qu'on est en train de faire.
Et alors, vous avez cette journée du lundi, qu'est-ce qui va se passer lundi? Est-ce qu'on peut venir vous voir? Est-ce qu'il y a des événements particuliers?
Alors, comme l'an passé, on avait lancé un appel aux illuminations, excusez-moi, des mairies. C'est-à-dire qu'on avait sollicité un certain nombre de mairies l'année dernière pour qu'elles mettent en couleur violette, qui est la couleur de l'épilepsie, leur mairie ou un monument de leur commune. L'année dernière, on a été suivi par une centaine de communes. À l'heure actuelle, je peux déjà vous annoncer qu'on est plus, on en a plus de 200. Et les plus grosses communes qui nous suivent, il y a Rouen, il y a Lille, l'année dernière, il y a encore Bordeaux, Nice. Malheureusement, on n'a pas Paris.
Non, vous n'avez pas été entendu?
On a sollicité, mais malheureusement, pour l'instant, non. J'en suis navré, je suis né à Paris, j'ai vécu à Paris toujours. Oui. Mais je dirais que les élus locaux de province, enfin de région, excusez-moi, sont beaucoup plus réceptifs. Paris, pour l'instant, on est... voilà, on attend, mais on aurait bien aimé. Mais donc là, on appelle l'illumination. Donc les mairies qui n'ont pas les moyens d'illuminer un monument nous ont proposé autre chose sur lequel nous, on est plus tout autant favorable, c'est-à-dire relayer une information, une sensibilisation aux épilepsies sur leur site internet. Et ils le font soit sur leur site internet, sur une page, ou même sur la commune où est Charlotte, ils l'ont fait sur leur panneau lumineux dans la rue pour sensibiliser pendant une semaine. Donc c'est vraiment pour nous... l'idée, c'est de parler de l'épilepsie, et c'est notre thématique, c'est parlons de l'épilepsie. Donc ça, c'est la première étape. Après, sur toute la semaine en cours. Nous avons un certain nombre de lieux, de centres commerciaux qui nous ont permis d'être accueillis à la demande de nos bénévoles, où il y a des stands qui sont réalisés. Là, aujourd'hui, il y a dans l'hyper-rue de La Rochelle, si vous êtes près de La Rochelle, allez-y. On a toute une équipe de bénévoles qui vous accueillera. Et un peu partout en France, on a des stands comme ça de sensibilisation, soit dans les hôpitaux, soit dans des centres commerciaux, etc., pour sensibiliser ou informer tous les relais. Alors on peut aussi les guider au niveau du milieu hospitalier. C'est souvent les demandes qu'on a, hein, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec mon fils ou avec mon frère, ma sœur qui est épileptique. Donc ça, on va l'avoir un peu partout en France. Et puis cette année, comme l'an passé, on a un certain nombre d'artistes et d'influenceurs qui nous ont fait la joie et l'honneur en fait de nous faire des petites vidéos ou des petites photos. Donc je réserve les surprises pour samedi, pour lundi prochain, excusez-moi. Mais on aura encore des soutiens un peu plus nombreux que l'an passé, et j'espère l'année prochaine encore plus.
Oui, oui. Merci Christophe Lucas, merci. Vous êtes président d'Épilepsie France, et cette journée internationale, c'est lundi.
C'est lundi prochain.
Voilà, lundi 14 février.
C'était l'invité du 7-9 avec Épatant, le magazine qui nous bouge.